depuis un certain temps, peut-être 3 semaines, je ne sais pas, 4 semaines, j'ai ce verset de Josué à cœur, en fait, ce morceau de verset. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et à cette période de fête, je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas en faire un objectif pour cette année dans ma vie? Alors, peut-être même pour toute ma vie, hein, ça serait peut-être mieux. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment ce Josué, en fait, en est arrivé à prendre cet engagement devant le peuple de Dieu. Donc, ça se passe, en fait, à la fin de la vie de Josué, et il prononce deux discours. Ça correspond aux deux derniers, en fait, chapitres du livre de Josué, les chapitres 23 et 24. Et c'est à la fin de ce deuxième discours qu'il va prononcer cet engagement qui est très fort. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, on va essayer de voir comment Josué a pu en arriver là et en tirer des enseignements au fur et à mesure. Bon, tout d'abord, il y a un contexte historique et après on verra un contexte spirituel. Après les 40 années passées dans le désert, après l'entrée dans le pays promis et le passage du Jourdain, le peuple, à la fin du chapitre 22 de Josué, on a fini avec la conquête du pays promis par Dieu. Le partage aussi du pays est également terminé. Chaque tribu d'Israël a pris possession de son territoire, de son héritage. Et à ce moment-là, il y a un temps de repos qui est accordé par Dieu au peuple d'Israël. On trouve ce temps de repos dans Josué 21, les versets 23 à 45. Josué 21, versets 23 à 45. « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. » Tout s'accomplir. Alors, au-delà du contexte historique, il y a aussi un contexte très fort d'accomplissement à ce moment-là des promesses de Dieu pour le peuple d'Israël. D'après les notes de ma Bible, la période de conquête s'est déroulée de 1405 à 1398 avant Jésus-Christ, et il y aurait une quinzaine d'années entre le début de la période de repos accordé par Dieu et les chapitres 23 et 24 qui contiennent ces deux discours dont nous allons parler. Et ces deux discours qui viennent aussi conclure la vie et le livre de Josué. Et deux discours dont l'objectif est à mon sens de donner des recettes spirituelles pour continuer de jouir en paix du pays promis. Et ça nous amène au contexte spirituel, on va le traiter en deux temps. Contexte d'abord spirituel de Josué, et après on verra le contexte spirituel du peuple. Alors Josué, c'est qui? Eh bien, après Moïse, qui a dirigé Israël, eh bien, c'est lui qui devient le conducteur du peuple d'Israël. Quand Moïse s'en va. Et dans le livre de Josué, on voit Josué comme un... dans le livre de l'Exode, pardon, on voit Josué dans Exode 17, au verset 9, on le voit comme un combattant. On le voit aussi au service de Moïse pour apprendre dans Exode 33, verset 11, et dans Nombre 11, verset 28, la parole le nomme comme le jeune serviteur de Moïse qui ne quitte pas la tente de la rencontre. On peut dire aussi de Josué que son œil sait voir les choses de Dieu avec une grande foi, et même au péril de sa vie. C'est dans Nombre 14, verset 7 à verset 9, c'est le retour de l'exploration du pays de Canaan, où tous les autres explorateurs disaient « attention, il ne faut pas y aller », et bien Josué a vu lui, il a vu autre chose, et on peut le lire. Donc Nombre 14, verset 7 à verset 9, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils vous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Et c'est là où on voit que Josué était aussi courageux. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Josué aussi avait certainement la foi pour dire ça, parce que derrière il est écrit, lorsque il est en danger, tout le monde veut le lapider, et tout à coup il est écrit, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Dieu, on peut le dire, a donc confié le peuple d'Israël à un homme expérimenté, un homme qui a été longuement formé, éprouvé même dans le désert. Et lors du discours final de ce chapitre 24 de Josué, qu'on lira tout à l'heure, c'est aussi un homme qui a accompli plus que bien sa mission de conquête du pays de Canaan. On peut rappeler qu'il était aussi habité par un esprit de sagesse, on le trouve dans Deutéronome 34, verset 9, et qu'il avait reçu... deux mandats. Il a reçu un premier mandat au départ comme serviteur de Moïse. Vous pouvez le lire dans Nombre 27, les versets 18 à 23. Et puis après, il a reçu un deuxième mandat, c'est celui de remplacer Moïse pour conduire le peuple. C'est Deutéronome 31, verset 23. C'est un serviteur donc qui a totalement l'agrément de Dieu, qui va parler au nom de Dieu dans ses discours. Alors maintenant, deux mots sur le contexte spirituel du peuple. Je dirais que le peuple a vu de nombreuses choses, en plus du témoignage qu'il avait sous les yeux de Josué, à partir du moment où ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Alors, je ne vais pas parler de tous les événements que le peuple a pu voir, et événements qui aussi imageaient l'histoire ancienne d'Israël, comme par exemple avec l'épisode de Rahab et le cordon cramoisi qui imaginait la Pâque. Il y a aussi la traversée du Jourdain qui était censée rappeler la traversée de la mer Rouge. Et pour nous, cela, ça doit nous faire penser aussi ces épisodes, à ce qui s'est passé pour nous à l'œuvre de Christ à la croix. Mais donc, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que je suis persuadé que la grande majorité du peuple, à ce moment-là, ne pouvait pas vraiment comprendre la signification de ces événements, de ces images. Mais le peuple, en tout cas, le peuple a vu tous ces événements, il a vu la traversée du Jourdain, il a vu la conquête de Jéricho, la bataille d'Aï en deux temps aussi. Le peuple a aussi vu les victoires sur tous les rois qui habitaient ce pays. La Bible nous dit qu'il y avait 31 rois qui ont été battus pour la conquête du pays. Donc le peuple a vu de grands prodiges de Dieu, prodiges faits par Dieu, par pure grâce, pour son peuple. Et ce peuple a aussi reçu en héritage, pour chaque tribu, on l'a déjà dit, un territoire et de grandes richesses, puisqu'on le lira tout à l'heure, Il a reçu des villes qu'il n'a pas eu à bâtir. Il a reçu des plantations qui étaient toutes prêtes à la cueillette. Et enfin, là, maintenant, il est sous la protection de son créateur pendant ce temps de repos, pendant déjà 15 années. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter tout ce que Dieu a fait pour ce peuple, mais il a fait énormément de choses. Et c'est vraiment un Dieu, donc dans ces passages, c'est un Dieu de grâce que nous découvrons dans le livre de Josué. Et en parallèle, nous vivons quand même, nous aussi, depuis 2000 ans, un temps de grâce merveilleux, depuis ce jour où Jésus a ouvert un nouveau chemin, nous a donné l'accès à un nouveau territoire en acceptant d'être sacrifié à la croix. Donc le peuple a vu tous ces miracles de Dieu, a pu voir la puissance de Dieu. Le peuple a pu voir la puissance de Dieu, pardon. Mais ce peuple a aussi pu voir que l'on ne plaisante pas avec Dieu, que l'on ne se moque pas de lui. Je pense, par exemple, à Josué 7 et à la prise d'Aï. Et certains avaient désobéi à un ordre de Dieu. Et je me suis perdu. Certains avaient désobéi à... Ah oui, ça, j'ai compris. Excusez-moi. J'ai retiré la lecture de la prise d'âge pour un peu raccourcir ce message. Donc, il y a eu une grande désobéissance. Et donc, Dieu avait vu la punition. Donc, la personne avait été brûlée avec tout ce qui lui appartenait. Et donc... à ce moment-là, je pense que quand le peuple est devant Josué pour ses discours, son contexte spirituel, c'est qu'il a les éléments suffisants pour apprécier la puissance de Dieu, pour apprécier sa souveraineté, pour apprécier sa grâce au travers de ce qu'il a vécu. Et il a aussi les éléments suffisants, en fait, pour connaître les promesses de Dieu, les exigences liées à sa sainteté, à son alliance, mais aussi des éléments pour, comme on l'a vu, pour comprendre les conséquences terribles de la désobéissance. Donc j'ai retrouvé mon verset, c'est Josué 7, verset 15. « Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. » Donc, le peuple était donc, à mon sens, capable de comprendre et d'assimiler les discours finaux que Josué donne à la fin de son livre. Pour faire un rapprochement avec nous, je ne sais pas... en ce début d'année 2019, où vous vous situez, quelle est la position du curseur? Est-ce que vous êtes déjà un Josué engagé, rempli de l'Esprit de Dieu, après avoir été sauvé, après avoir été façonné, formé, affûté par un Moïse? Comprenez-la, affûté par la parole de Dieu, par Jésus, le Sauveur, ne faisant qu'un avec le Père. J'en reparlerai après, mais on a cette image de Moïse serviteur, de Josué serviteur de Moïse dans le tabernacle, qui reste près de Josué dans la maison de l'Éternel. Donc, est-ce que on est déjà un Josué, ou peut-être plus humblement, est-ce que nous sommes comme ce peuple qui a été sauvé par l'unique grâce de Dieu? Est-ce que nous sommes comme ce peuple qui a vu des miracles, qui a goûté à quelques prémices du royaume de Dieu, tout en étant encore un petit peu hésitant à s'engager entièrement? et à renoncer à toutes ces idoles. On le verra plus tard. Voilà pour le contexte historique et spirituel. Si vous lisez à la maison ces discours, vous verrez, c'est assez facile. Les deux discours, donc les deux chapitres, présentent des fortes ressemblances en termes, je dirais, de structure générale. On va essayer de passer vite là-dessus. Donc, dans les deux cas, le texte précise que Josué est en fin de vie et qu'il convoque le peuple pour lui faire un discours de la part de l'Éternel. Donc, deux introductions très similaires. À une différence près, je m'attarderai pas dessus, j'ai décidé de ne pas la traiter, c'est que dans Josué 23, le premier discours s'adresse à tout le peuple avec tous les dirigeants, et que dans Josué 24, si l'on regarde bien, il ne s'adresse en fait qu'aux dirigeants. Hein, donc les dirigeants, c'est les anciens, les chefs, les juges et les officiers. Après l'introduction, donc, les discours se décomposent en fait en trois grandes parties. Une partie qui représente un cours d'histoire, rappelant que ce que Dieu a fait sur une période. Donc pour le chapitre 23, la période balayée correspond à la période du livre de Josué. Pardon. Donc c'est de la conquête, l'entrée dans le pays, la conquête et le partage. Et pour le chapitre 24, nous le verrons après, mais ça part de beaucoup plus loin, ce petit cours d'histoire qui est fait. Remonte jusqu'au début, jusque même au grand-père d'Abraham, et pour se terminer toujours à la fin de la conquête du pays promis. Et à la suite dans ces deux chapitres, en fait, à la suite des deux cours d'histoire, et bien derrière, il y a chaque chapitre aussi a un enseignement. Dans le chapitre 23, l'enseignement, ça va être un enseignement centré, en fait, sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, un verset dit « S'appliquer avec force à observer la loi de Moïse, s'attacher à l'Éternel, à l'aimer, à ne pas s'en détourner. » C'est le centre du discours du chapitre 23, donc la parole de Dieu et s'attacher à l'Éternel. Alors que l'enseignement du chapitre 24, ça sera centré en fait sur la crainte de l'Éternel et sur le service exclusif de Dieu dans l'intégrité et la fidélité. On y voit un crescendo. Chapitre 23, la parole, et après l'expérience. Et chaque discours se termine par une conclusion, en fait, réinsistant sur l'enseignement donné et les conséquences de ne pas le mettre en pratique. Donc le plan du chapitre 24, on va se concentrer sur le chapitre 24. Versets 1 à 13, c'est la partie cours d'histoire, j'ai appelé ça « Histoire de la grâce ». Verset 14 et début du verset 15, ça va être la partie « Enseignement pratique », le service exclusif pour Dieu. Et verset 15, eh bien, c'est le fameux engagement de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous me suivez? C'est pas trop vite. Alors, l'histoire de la grâce. Donc, verset 1, donc, on va prendre verset par verset. Verset 1, Josué, donc chapitre 24 de Josué. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Alors, ce lieu, Sichem, n'est pas choisi au hasard par Josué, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, et ce lieu doit inciter, en fait, l'auditoire, on va dire, à réfléchir, à se rappeler des choses que Dieu a fait pour eux dans le passé. Alors, il y a deux passés. Il y a un passé proche qui va être dans un passé proche, en fait, le peuple s'est déjà retrouvé à cet endroit, à Sichem, puisque dans Josué 8, le peuple a été réuni en présence de l'Arche de l'Alliance suite aux victoires sur Jéricho et sur Aï. Et à ce moment-là, Josué avait fait une copie des lois de Moïse et l'avait également lue devant tout le peuple. Et dans un passé un peu plus lointain, c'est Abraham, donc le père des croyants, qui était déjà passé par là et Dieu lui avait fait une promesse. Genèse 12, versets 6 et 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, Dieu, pas choisi au hasard, pardon, en fait, Sichem, c'est une sorte de mémorial qui doit rappeler au peuple tout ce qu'il a vécu et surtout qu'il y a un Dieu qui est vrai, il y a un Dieu qui agit depuis le commencement parce que le peuple doit se rendre compte, enfin là c'est les chefs, ils doivent se rendre compte que ce qui avait été annoncé, ce qui avait été prophétisé du temps d'Abraham est en train de se réaliser, même on peut dire s'est réalisé. Toutes les paroles de Dieu s'accomplissent quand il l'a prédit. Ensuite, après cette précision sur le lieu du discours, on va voir les versets 2 à 13, et là, c'est vraiment le cours d'histoire qui se décompose en 7 étapes. Donc, Dieu a choisi cette étape, parce que c'est le chiffre parfait, est-ce qu'il y avait tout dans ces 7 étapes, tout ce que devait peut-être se rappeler était là. Donc, la première étape, c'est l'appel d'Abraham. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité. » Donc, Dieu a appelé Abraham pour le faire sortir des nations idolâtres, c'est le premier point. Il l'a choisi, peut-être ça doit nous faire penser pour nous à notre élection. Nous aussi, nous avons été choisis et de la même façon que le peuple avait été choisi par grâce, nous aussi nous avons été choisis par grâce. Et en plus, Dieu laisse à Abraham des promesses merveilleuses. On le voit dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, c'est là où il y a les promesses, une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, de grandes promesses aussi lors de l'appel d'Abraham. Deuxième étape de notre cours d'histoire, c'est l'histoire d'Isaac. Et il est dit dans le verset 3, « Et je lui donnai Isaac. » Je ne vais pas m'attarder sur Isaac, mais déjà la naissance d'Isaac, un miracle de Dieu, vu les circonstances, une femme stérile âgée de 90 ans, un homme âgé de 100 ans, quelle puissance de vie, quelle puissance pardon de Dieu sur la vie dans cette naissance. Et cette étape doit aussi, avec l'histoire d'Isaac, rappeler à notre auditoire en fait l'obéissance d'Abraham au moment où Dieu lui demande de sacrifier son fils. Et cette étape aussi doit nous rappeler qu'à ce moment-là, Dieu a pourvu quand il a vu la foi d'Abraham, Dieu a pourvu lui-même au sacrifice. Quel rappel encore de la grâce de Dieu. Troisième étape, qui est au verset 4, « Je donnais à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnais en propriété à Ésaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. » Là, je pense qu'il s'agit d'une nouvelle preuve, en fait, de la souveraineté de Dieu. C'est son plan qui se déroule inexorablement. Ésaü a refusé, a vendu son droit d'aînesse, et il a reçu la montagne de Séir. Alors que Jacob, qui devient le véritable héritier de la promesse, lui continue à habiter sous des tentes, comme dans une terre étrangère. C'est Hébreux 11, verset 9 qui nous dit. Et les descendants de Jacob les descendants s'exilent à un moment donné en Égypte pour rester en vie. Et là, ça doit faire l'histoire, en fait, de Jacob doit faire rappeler qu'en Égypte, ils sont retombés sous l'idolâtrie. C'est dans Ézéchiel 20, verset 8. Quatrième étape, la sortie d'Égypte à travers la mer Rouge, c'est les versets 5 à 7. Je vais passer très vite sur cette étape. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de la mer Rouge, de la traversée de la mer Rouge, et elle doit nous rappeler à nouveau l'immense puissance de Dieu. Elle doit nous rappeler cette puissance qui libère le peuple de l'esclavage en anéantissant ses ennemis. Dieu délivre, Dieu libère, Dieu sauve. Cinquième étape, le désert, c'est les versets 7 à 10. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous pris possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Dieu, dans cette cinquième étape, met en évidence, bien sûr, sa puissance dans les combats, mais en évidence sa fidélité aussi dans les paroles de bénédiction, hein, puisque c'est des paroles de bénédiction qu'il avait annoncées, on l'a vu à l'origine, et il change la malédiction de Balaam en bénédiction. Donc là, on voit aussi que le peuple doit comprendre qu'il y a une nouvelle promesse, en fait, qui a été accomplie. L'autre leçon aussi, c'est que Dieu nous veut du bien, Dieu veut nous bénir. C'est son plan. Sixième étape, le passage du Jourdain et les victoires sur les ennemis. Versets 11 et 12, pardon. Si vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Guergasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Alors cette sixième étape, je pense, devait rappeler à l'auditoire de Josué que toutes ces victoires qui avaient été obtenues, ce n'était pas par leur propre force à eux, ce n'était pas par une puissance humaine, mais c'était des victoires acquises par Dieu. Paul, dans son ministère, l'avait compris, en parlant de son combat dans Colossiens 1, verset 9, Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. 1 Colossiens 1, verset 29. Dernière étape, septième étape donc, c'est le don du pays. Le don du pays de la promesse initiale faite à Abraham, verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Dieu, dans cette étape, nous rappelle, à mon sens, combien il est bon de profiter de son repos, combien il est bon de profiter de ses pâturages, de sa grâce, et tout ça d'en profiter dans sa paix. Quel refuge! Notre Dieu est aussi un Dieu de refuge. Donc, on a parcouru rapidement cette étape pour ce cours d'histoire. L'objectif de Dieu, à mon sens, par la voix de Josué, était de rappeler donc au peuple ce qu'il avait vécu depuis qu'il avait été pris en charge, donc par l'Éternel au temps d'Abraham, et de lui rappeler en fait tout son amour, tout ce qu'il avait fait par amour, de lui rappeler sa puissance, sa souveraineté, lui rappeler sa grâce, mais aussi sa sainteté. Et tout ça, je pense que c'était pour que le peuple aussi comprenne que Dieu ne faisait pas n'importe quoi, qu'il avait un plan. Et je pense qu'il faut considérer ce discours, en fait, ce cours, comme un socle de base pour nos vies chrétiennes. Je pense que c'était l'objectif de Dieu, que tous ces chefs qui étaient là, toutes ces autorités, comprennent bien et se souviennent bien, avec cette étape, quel est le socle de base sur lequel, en fait, chaque membre du peuple devait pouvoir s'appuyer pour augmenter sa foi, pour la fortifier. Et je crois qu'on pourrait résumer ce discours, ou résumer ce socle, en disant simplement « Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi ». Est-ce que chaque jour, on se pose cette question, est-ce que « Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi ». J'ai trouvé dans le psaume 137, verset 6, vraiment cette idée « Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Faire de Jérusalem le principal sujet de sa joie. Et en parlant de ce cours d'histoire, pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, eh bien nous avons aussi, à portée de main, nous avons aussi notre cours d'histoire. Et ce cours d'histoire, lui, s'étend sur une période, bien sûr, beaucoup plus grande, puisqu'il démarre à la création de l'humanité, et que il se termine, je dirais, quelques dizaines d'années après que Jésus nous aille donné les clés du pays promis, avec, comme on l'a déjà dit, ce sacrifice à la croix qui, si on l'accepte comme, je dirais, méthode de pardon pour nos péchés, eh bien, il nous ouvre le pays promis, il nous ouvre, la vie éternelle, il nous ouvre ce pays où, pareil, pour nous, la grâce va couler. L'apôtre Paul dira qu'elle coulera avec surabondance. Donc ce cours d'histoire, en fait, eh bien, c'est notre Bible, c'est la parole de Dieu. Et on peut même dire que c'est plus qu'un cours d'histoire, puisqu'il nous parle des promesses de la fin des temps. On a une révélation bien meilleure que ce que pouvait avoir le peuple du temps de Josué. Et comme pour le peuple, avec Josué qui était rempli d'un esprit de sagesse, nous avons un conducteur pour diriger notre pays promis. Donc Josué avait l'esprit de sagesse, il conduisait le peuple, et nous, ce conducteur, bien sûr, ce n'est plus Josué, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a été envoyé comme une puissance après que Jésus soit monté au ciel. Donc, à l'issue de ce discours, on peut penser que, je dirais, l'auditoire était fortifié, était peut-être revigoré dans sa foi au chapitre 24. Et je rappelle que, en fait, ce discours fait suite à celui du chapitre 23, qui, lui, au lieu d'insister sur le service, insistait sur la parole de Dieu. Et il a s'attaché à l'Éternel. Et ce qui, si on fait une comparaison, tout à l'heure, j'ai parlé des deux mandats de Josué. Un premier mandat qui était de rester dans le tabernacle avec Moïse, dans la maison de l'Éternel. Donc on peut penser que là, il s'est vraiment enrichi dans la présence de Moïse, dans la présence de Dieu. Et après, il a eu ce deuxième mandat qui était de conduire le peuple, et il est devenu ce conducteur. Nous avons peut-être eu ce... Nous sommes peut-être, nous, dans cette... à l'orée de ce... Oui, non, c'est pas ça que... Excusez-moi. Et en fait, on a bien deux discours aussi. Si vous regardez, on a bien deux discours. Hein, deux mandats de Josué, un pour apprendre la parole et un pour conduire. Et là, on a bien deux discours. On a un premier discours, chapitre 23, qui nous parle de la parole, l'importance de la parole, de s'attacher à la parole. Et un deuxième discours qui va nous demander d'aller servir. Donc il y a un fort parallèle entre cette vie de Josué et ces deux derniers discours qu'il fait. Voilà. C'est donc, je dirais, après toute cette phase de préparation, donc que le peuple va comprendre ce que Dieu attend de lui pour son deuxième mandat. Et ce deuxième mandat, on en a un peu parlé, c'est le service exclusif pour Dieu. C'est la partie enseignement de ce discours du chapitre 24. Le service exclusif pour Dieu. Verset 14, toujours chapitre 24. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Alors nous l'avons vu, le peuple, je pense, est prêt à comprendre, et Josué, là, s'adresse, je dirais... à leur cœur, ils saisissent l'instant pour parler un petit peu, enfin parler carrément même à leur conscience. Et le verset 14 commence par un mot qu'on retrouve aussi souvent dans le Nouveau Testament, c'est « maintenant ». Alors, maintenant que tu sais, maintenant que tu as entendu, maintenant que tu as été enseigné et que... Peut-être que d'une certaine façon, tu as, on ne le termine jamais, mais de façon imagée, peut-être que certains d'entre vous déjà ont terminé leur premier mandat. Eh bien, Josué leur demande, eh ben, maintenant vous avez eu toute cette instruction, vous connaissez l'Éternel, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Quelle décision vous allez prendre? Est-ce que, pour prendre une image un peu scolaire, est-ce qu'on va décider de redoubler pour se la couler douce? Ah oui, si je redouble, j'aurai des bonnes notes, pas trop à bosser. Quand j'étais jeune, ça m'a souvent passé par l'esprit. Ou alors, est-ce que je vais abandonner carrément, je vais abandonner mes mandats, ou alors pire encore, est-ce que je vais refuser un deuxième mandat et en plus quitter le pays promis pour retourner dans une vie idolâtre de l'autre côté du fleuve? On rappelle que Dieu est allé chercher Abraham pour le faire passer d'un côté de l'Euphrate pour qu'il quitte les idoles. Alors, il y a cette solution, ou alors il y a la deuxième solution qui est de se dire, eh bien, je vais accepter le challenge que Dieu te propose. Est-ce que tu vas accepter aujourd'hui le challenge que Dieu te propose, ce deuxième mandat? Mandat qui consiste, on l'a lu, à le craindre, qui consiste aussi à le servir avec intégrité et fidélité, en se séparant de tout ce qui n'est pas à sa gloire, de tout ce qui n'est pas pur. Alors, le temps est un peu compté, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui n'est pas pur, mais c'est toutes les idoles qui vont polluer notre corps, notre esprit, et qui vont nous empêcher de comprendre la volonté de Dieu. Et en fait, ces idoles, c'est tout ce qui va nous confisquer du temps, qui va nous confisquer notre temps de relation avec Dieu. Et ces idoles, elles vont nous éloigner des grâces divines, elles vont nous empêcher de produire de bons fruits que d'autres peut-être pourraient manger, comme on a eu l'image du peuple qui est arrivé dans un pays où il n'avait plus qu'à du peuple qui est arrivé dans un pays où il n'avait plus qu'à cueillir des fruits. Et donc Josué fait cet appel au peuple de craindre Dieu. Josué demande au peuple de le servir, de se séparer de l'idolâtrie, et ça va être un service qui est exclusif. On connaît tous cette phrase « Nul ne peut servir deux maîtres ». Et donc Josué confirme ainsi pour Dieu les déclarations de Moïse dans Deutéronome chapitre 6, les versets 13 et 14. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Jésus aussi, pour vaincre Satan, dira dans Matthieu 4, verset 10, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Un service exclusif. Jean, à la fin de la première épître de sa première épître, 1 Jean, donc chapitre 5, termine après avoir fait toute une série, nous savons que le véritable, il termine au verset 21 et il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Un dernier exemple, après un début de vie compliqué, Ruth est arrivée dans le pays promis, elle est devenue femme de Boaz, et elle va donner naissance à un fils qui sera appelé Obed, et ce mot signifie « celui qui sert ». Et ça m'amène à la fin de ce message, et Josué termine son discours par cette profession de foi. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est la fin du verset 15. Et je souhaite vraiment que cet exemple de Josué qui, à ce moment-là, achève sa vie sur terre, sa vie terrestre, eh bien, tout en renouvelant en fait son engagement, eh bien, que cet exemple puisse vraiment nous inspirer pour cette nouvelle année. Et cette fin de vie de Josué marque aussi dans la Bible une charnière avec une époque terrible, c'est l'époque des juges qui va commencer. Et j'ai quand même l'impression qu'on est dans une époque très ressemblante à celle des juges où chacun fait ce qui lui semble bon. Alors, ne perdons pas de temps pour nous engager à servir Dieu exclusivement. Le Seigneur va revenir comme un voleur. Que nous puissions vraiment, dès ce début d'année, entendre ces paroles de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, vraiment, merci pour ta parole qui, chaque jour, ce n'est pas seulement en ce début d'année, mais chaque jour, nous nourrit, comme le rappelait Marie, et chaque jour doit nous faire aller vers l'avant. Amen.
Marc, quand j'étais un peu long, je crois.